Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, au pied du mur, la journée de grève et de mobilisation contre la réforme des retraites commence ce soir à la SNCF, 19h. Un train sur 10 seulement. Autre chiffre clé pour cette journée demain, plus de 50% des enseignants seront grévistes et les appels à la grève, à la mobilisation, à manifester se comptent par dizaines dans toute la France. Nous ferons le tour des points de blocage avec Laurent Kramer. Zoom sur les solutions alternatives et sur un des régimes spéciaux de retraite remis en cause, celui de la RATP. Et puis nous verrons que dans le privé aussi, il y a des appels à la grève. Plus d'un million de signatures contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Le cap est franchi. Les adversaires de la privatisation demandent un référendum. Les mots empreints de colère du président du consistoire israélite dans le Bas-Rhin, cela après la nouvelle profanation d'un cimetière juif. Il était ce matin l'invité de nos confrères de France Bleu.
Il faut se poser cette question, si l'Alsace n'est pas antisémite, elle a malgré tout, malheureusement, un problème avec l'antisémitisme.
Nous entendrons également Jean-Louis Debré. Une partie de sa famille repose dans ce cimetière. Dans cette édition encore, l'inquiétude pour la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelra, retenue depuis 6 mois en Iran. Le rapport accablant des démocrates dans la procédure de destitution de Donald Trump. La victoire du tandem Camas-Caudrelier dans la course à la voile Brest-Atlantique. Et puis le conseil cinéma de la chère Eva Bettan. Ça doit être le paradis, c'est le titre du film. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
245 rassemblements et manifestations ont été déclarés en préfecture pour la journée de demain. Le chiffre est donné par Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Des dizaines de cortèges donc dans toute la France demain contre la réforme des retraites et des appels à la grève ou à la mobilisation dans de très très nombreux secteurs. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Bruno.
Nous faisons le tour avec vous, on commence par les transports.
Oui, plus de 80% de grévistes annoncés chez les conducteurs de trains à la SNCF, presque autant à la RATP. Cela donne concrètement 90% de trains annulés demain. Quasiment aucun train intercité, un TGV, un TER, un transilien sur 10. Sur Paris, 11 lignes de métro seront totalement à l'arrêt. Les RER A et B ne fonctionneront qu'aux heures de pointe avec 1 à 3 rames par heure. À Lille, Marseille, Grenoble et Strasbourg, les métros et bus seront également très perturbés. Du côté de l'aérien, les personnels d'Air France et une partie des aiguilleurs du ciel sont également en grève demain. 30% de vols intérieurs et 15% des vols moyens courriers sont donc annulé.
EasyJet annule également 233 vols intérieurs et moyens courriers. Alors voilà pour les transports. Dans les écoles maintenant, eh bien le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a fait le point ce matin. Combien de grévistes demain ?
À l'école primaire, ce chiffre est de 55% pour l'ensemble de la France. C'est donc un chiffre important. Dans le second degré, nous pensons que ce sera légèrement inférieur, donc qu'on devrait être de l'ordre de 50% dans les collèges et les lycées de France. C'est évidemment un fort taux de grève, puisque toutes les grèves que nous avons depuis 2 ans et demi sont bien plus faibles que celles-là.
Et le taux de grévistes attendu est particulièrement fort dans le primaire à Paris, 78%. Globalement, en France, au moins 30% des écoles assureront un service minimum. Est-ce qu'il y en aura plus ? Ça dépendra de l'organisation dans chaque commune. À Paris, quasiment toutes les écoles pourraient être fermées. Chaque académie dans les régions doit donner sur son site internet la liste des écoles ouvertes et fermées. Laurent Kramer, on vous retrouve. Dans quels autres secteurs y a-t-il appel à la grève ou à la mobilisation demain, Laurent ?
Alors, les personnels d'EDF, des industries gazières sont appelés à débrayer et à manifester demain. Appel de la CGT et de Force ouvrière également auprès de du personnel hospitalier et de toute la fonction publique. Le ramassage des ordures ménagères est annoncé également perturbé à Marseille et à Montpellier. Montpellier appelle également dans le secteur privé, évidemment, notamment dans les grands magasins et la grande distribution. Du côté de la justice et des policiers, le syndicat de la magistrature et les avocats appellent également à une journée de mobilisation. Les policiers ne manifesteront pas, mais les syndicats Alliance et UNSA appellent à des fermetures symboliques de commissariats.
À Paris, la manifestation ira en direction de la place de la Nation. Le ministre de l'Intérieur détaille tout à l'heure le dispositif de sécurité. D'ores et déjà, rassemblement interdit à des personnes qui se réclameraient des gilets jaune dans le secteur des Champs-Élysées. Encore un mot des transports lors de cette journée noire de chez noir, comme dit la Fédération des usagers de transport. Pour ceux qui prendront la voiture, la menace d'une pénurie d'essence s'éloigne. Plus de dépôts pétroliers bloqués depuis ce matin. Les transports en commun, la grève devrait durer. Il n'y aura pas d'amélioration significative à attendre vendredi. Le patron des Transiliens en Ile-de-France anticipe une situation très difficile jusqu'à dimanche, même au moins. C'est le retour des gilets rouges dans les gares. Un millier pourra accompagner les voyageurs. 50 à 60 cars Macron devraient être mobilisés en région parisienne. La Fédération des usagers de la bicyclette espère voir le nombre d'usagers doubler. Demain, ils comptent sur des chiffres précis à ce sujet. Il y a des capteurs à vélo dans les rues désormais. Et j'espère, dit le président de la Fédération de la bicyclette, que les personnes vont découvrir que le trajet domicile-travail n'est pas si difficile et qu'ils continueront de pédaler après. Et puis les chauffeurs de VTC sont priés de ne pas quadrupler leurs tarifs. Pour les passagers des trains et RER en rade, la ministre des Transports assure que les solutions alternatives devraient permettre d'assurer en Ile-de-France 500 000 voyages demain, 15% de l'offre de transport, car il y aura des gagnants à cette grève, Fanny Hoyer, des gagnants dont le nom commence souvent par co.
Dans cette start-up qui organise du covoiturage entre collègues, le téléphone de la chargée de clientèle n'arrête pas de sonner.
Oui, bonjour, Camille Chen de la société Klaxit. Vous appelez notamment peut-être par rapport aux grèves?
Oui, notamment.
On a entre 5 et 15 entreprises qui nous sollicitent par jour. Donc ouais, c'est un peu la course, ouais.
Record absolu depuis 3 semaines pour cette application mobile, selon son fondateur Julien Honard.
On attend 4 fois plus de personnes que la normale, puisque lors de la dernière grève du 13 septembre, c'est ce qu'on avait observé, plus 400% de fréquentation sur l'application.
Certaines entreprises lancent même un tarif spécial grève en partenariat avec la RATP. Chez Wojo, par exemple, qui loue des bureaux partagés, le directeur Stéphane Ben-Simon offre un mois gratuit sur 200 sites, en espérant bien recruter au passage de nouveaux clients.
Si on peut avoir 1000 ou 2000 personnes qui visitent toutes les heures, ce sera une réussite, ouais, de pouvoir créer un trafic et de faire connaître cette nouvelle façon de travailler en dehors de son bureau et dans des espaces partagés.
Une formule en nette augmentation, les professionnels du secteur revendiquent une multiplication par 10 du nombre d'espaces de coworking en France ces 5 dernières années.
Une particularité de ce mouvement, c'est qu'il va commencer alors qu'on ne connaît pas tous les détails de la réforme. Système universel par points, mais quand entrera-t-il en vigueur? Est-ce que ce sera au même moment pour tout le monde? Le gouvernement garde une part de flou, sans doute pour se garder une marge de négociation. Exemple, ce matin, avec ces propos de la ministre des Transports à propos de la RATP, la situation n'est pas la même selon que vous venez juste d'entrer à la RATP ou que vous êtes à 5 ans de la retraite. Sous-entendu, il y a encore du grain à moudre. Et bien justement, zoomons sur ce régime spécial de la RATP. On le fait avec vous, Maxime Debs.
Oui, la RATP qui compte 46 000 agents mobilité sur toute l'Île-de-France. Environ 9 sur 10 sont aujourd'hui au statut, donc soumis à un régime spécial qui, sur le papier, permet de partir plus tôt, comme à la SNCF. Aujourd'hui, un conducteur de bus ou de métro à Paris voit ses droits ouverts après de 51 ans, un agent de maintenance à 56 et un cadre à 61 ans. Une ouverture des droits qui se fait de plus en plus tard au gré des réformes de ces dernières années et à distinguer, attention, du réel départ en retraite des agents. Ainsi, un conducteur pouvant partir donc en théorie à 51 ans reste aujourd'hui plutôt jusqu'à ses 56 pour ne pas subir de décote. Un âge qui demeure avantageux par rapport à un agent des transports au Havre à plusieurs fois pointé ces derniers mois le Premier ministre. En réponse, les syndicats lui opposent des facteurs de pénibilité, une conduite plus dangereuse à Paris et des temps de trajet domicile-travail plus importants en raison du montant des loyers dans la capitale, avec des journées à rallonge par conséquent qu'il faut bien compenser.
C'est lundi prochain que le haut commissaire à la réforme des retraites doit donner plus de détails sur le projet avant le Premier ministre autour du 20 décembre. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, envoie un mail aux enseignants. Il promet que le passage au système à points ne se traduira pas par une baisse des pensions. Pour cela, les salaires seront augmentés dans les années à venir. Selon les calculs du syndicat FSU, le manque à gagner sans augmentation de salaire serait de 300 à 900 euros par mois avec le nouveau système de retraite. Tout ça en fonction de la situation des professeurs. Dans l'opposition pour le Rassemblement National, Jordan Bardella évoque déjà l'hypothèse d'un référendum en cas de blocage. Jean-Luc Mélenchon souhaite qu'Emmanuel Macron connaisse un échec. Il en va, selon le leader de la France Insoumise, de la cohésion de la société. Et les appels à la grève et à la mobilisation concernent aussi le secteur privé, transport routier, raffinerie de carburant, collecte des déchets et chantier naval aussi. Voici à Cherbourg ce salarié qui s'appelle Bruno Truffert, salarié des constructions mécaniques de Normandie. Il manifestera demain.
Je pense qu'il y aura du monde. On sent bien quelque chose qui gronde et pour beaucoup dans le privé, c'est de se dire oui, ok, c'est le moment. On y va parce que vraiment il y en a, c'est toutes les rancœurs accumulées. Moi quand je suis entré sur le marché du travail, je devais travailler 37 ans et demi et la retraite était à 60 ans. Il y a eu des gains de productivité, il y a eu des tas de choses et pourtant on ne fait que reculer, c'est la quatrième ou cinquième réforme depuis. Donc à un moment ça suffit, quoi. globalement, c'est quelque chose qui est vécu comme une injustice. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est se mettre toujours les uns contre les autres, les gens du public et les gens du privé. Moi, je ne suis pas jaloux des gens de la SNCF. Et j'aimerais bien, s'ils ont un régime qui est plus favorable que le mien dans le privé, j'aimerais bien être aligné sur les gens du public et non pas faire descendre la SNCF. Ça ne me rapporte absolument rien et je ne vois pas pourquoi on le ferait.
Un propos recueilli par Benoît Martin de France Bleu Cotentin sur franceinter.fr, entre autres éclairages à propos de cette grève de demain. 100 Français disent pourquoi ils feront grève. Grève qui commence à la SNCF, je vous le rappelle, dès ce soir, 19h. Et dans ce contexte social mouvementé, les partisans d'un référendum sur un tout autre sujet brandissent des chiffres symboliques ce matin. La pétition contre la privatisation d'Aéroports de Paris a franchi le cap du million de signatures. Alors, selon les règles actuelles, il en faut près de 5 millions pour provoquer un référendum, mais après la crise des Gilets jaunes, pour développer la démocratie participative, Emmanuel Macron avait envisagé de faire passer ce seuil à 1 million. Pour Aéroports de Paris, on y est. Boris Vallaud, député socialiste, en appelle donc au chef de l'État.
Nous, on a en tête l'engagement qui avait été pris par le président de la République le soir du grand débat. Il avait considéré que le seuil de 4,7 millions de signatures pour déclencher le référendum était trop élevé, qu'il fallait l'abaisser à 1 million de signatures. On lui dit, qu'à cela ne tienne, nous sommes à 1 million de signatures, déclencher, comme l'article 11 de la Constitution vous l'autorise, ce référendum sur les aéroports de Paris pour que les Français puissent se déterminer et faire vivre un débat que vous avez escamoté dans l'hémicycle. Et le risque qu'a pris le gouvernement en tenant dans le silence les processus, les procédures pour pouvoir soutenir ce référendum, le risque qu'il a pris, c'est d'escamoter cet outil qui est un progrès dans la participation démocratique. Monsieur le Président de la République, vous qui, à toute force, voulez tenir tous vos engagements, là, il y en a un pour lequel nous vous soutiendrons, c'est celui de déclencher le référendum. Chiche, Monsieur le Président, allons-y.
Propos recueillis par Laurence Perron.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
La colère et le dégoût restent particulièrement forts au lendemain de la découverte d'actes de profanation dans le cimetière juif de Westhoffen, dans le Bas-Rhin, en Alsace. 107 tombes profanées. Particularité, une famille célèbre en France est directement touchée par ces actes. C'est la famille Debré. Jean-Louis Debré, l'ancien président du Conseil constitutionnel, est révolté.
Il n'y a pas de nom pour qualifier ce qu'ont fait ces personnes. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut dessiner des croix gammées sur des tombes? Comment est-ce qu'on peut ignorer le passé? Comment est-ce qu'on peut souhaiter, entre guillemets, le retour à cette époque où les Juifs étaient exterminés en 95? Au moment où mon père allait mourir, il m'a fait venir et il m'a dit une chose. Quand le maire de Westhoffen te demandera quelque chose pour le village de Westhoffen, tu lui obtiendras, car c'est de là où tout est parti pour notre famille. Ce qui s'est passé a été pour moi un coup de poignard. Et j'ai honte et j'ai vraiment envie de pleurer.
Après cette profanation, les mots très directs du président du consistoire israélite du Bas-Rhin, si l'Alsace n'est pas antisémite, elle a malgré tout un problème avec l'antisémitisme. Propos tenus ce matin chez nos confrères de France Bleu, on en a entendu un extrait en titre. Sur place ce matin, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, annonce la création au sein de la gendarmerie d'un nouvel Office national de lutte contre la haine, qui sera notamment chargé de l'enquête sur cette profanation. Il a placé ses intérêts personnels au-dessus des intérêts nationaux. Dans la procédure de destitution de Donald Trump, une nouvelle étape est franchie. Le rapport d'enquête vient d'être publié. Je viens d'en citer un extrait. Il contient des termes très accusateurs. France Inter à Washington, Grégory Phillips.
Le rapport d'enquête fait 300 pages et il conclut que Donald Trump a personnellement et avec l'aide d'agents travaillant en dehors du gouvernement, en l'occurrence son avocat Giuliani, sollicité l'ingérence d'un pays étranger, l'Ukraine, pour favoriser sa campagne de réélection. Les preuves sont accablantes, dit encore la commission du renseignement, qui dénonce aussi le fait que le président a entravé les investigations des parlementaires. Évidemment, la commission et la Chambre des représentants sont à majorité démocrate et tandis que Donald Trump est à Londres, la Maison-Blanche a immédiatement réagi par un communiqué en dénonçant une imposture. Cette première étape franchie, c'est maintenant la commission judiciaire qui va entamer ses propres auditions. Puis les représentants se sont donnés jusqu'au 25 décembre pour voter l'impeachment de Donald Trump, ce qui alors ouvrirait la voie à un procès en destitution, mais devant un Sénat majoritairement républicain, démarche qui n'a donc que très peu de chances d'aboutir. Washington, Grégory Philips, France Inter.
Cela fait 6 mois désormais que les 2 chercheurs français, Fariba Adelra et Roland Marshall, ont été arrêtés en Iran. Qu'est-ce qui leur est reproché précisément? Le régime des Mollahs n'a jamais répondu. La France continue de demander leur libération. Et si les nouvelles de Roland Marshall sont plutôt rassurantes, celles de sa compagne, Fariba Adelra, qui a la double nationalité, sont nettement plus inquiétantes. Écoutez Jean-François Bayard, l'ancien directeur scientifique du CERI Sciences Po. Il est proche du couple.
Pour Fariba Adelra, les nouvelles semblent franchement mauvaises et très préoccupantes. Elle serait soumise à des interrogatoires extrêmement durs, si l'on en croit des témoignages de l'intérieur de la prison d'Evin, qui parlent de cris. Donc ces nouvelles sont extrêmement préoccupantes, d'autant plus que Fariba Adelra ne bénéficie pas de visites consulaires. Nous avions un espoir ténu cet été, dans la mesure où la négociation entre Téhéran et Washington, par l'intermédiaire d'Emmanuel Macron, donnait à penser qu'il y avait une possibilité de résolution de l'affaire à l'horizon de l'Assemblée générale des Nations Unies au mois de septembre. Cet espoir s'est évanoui et aujourd'hui, les négociations semblent bel et bien bloquées. Nous sommes dans l'impasse.
Un propos recueilli par Franck Mathevon. Et le géant des mers le plus rapide est celui de Charles Caudrelier et Franck Camas. Les 2 skippers à bord de leur maxi trimaran Edmond de Rothschild ont remporté ce matin la Brest Atlantique. Demi-tour du monde, Brest en passant par Rio. Il n'y avait que 4 bateaux en lice, des modèles ultimes et des marins tous plus capés les uns que les autres. Camas et Caudrelier ont bouclé la boucle en 28 jours, 23 heures, 24 minutes. Écoutez Charles Caudrelier.
J'en suis amoureux, je crois que ce bateau, depuis le premier jour, je l'aime, j'ai navigué dessus. J'ai jamais pris autant de plaisir, j'ai même retrouvé le plaisir. C'est vrai que j'ai un peu perdu la foi, on va dire, avec l'année de métier, puis trois courses très difficiles autour du monde que j'ai fait. J'avais un peu moins envie de naviguer. Ce bateau, depuis que je suis dessus tous les jours, je me lève et j'ai envie d'y aller, j'ai envie de naviguer dessus. C'est le plus beau, je crois qu'on peut dire que c'est un des plus beaux bateaux au monde. Il y en a 4 comme ça aujourd'hui, et un, notamment comme le nôtre, Maxime de Rothschild, qui vole. C'est le premier bateau volant qui a été dessiné pour voler au large par Guillaume Verdier et toute l'équipe du Gitana Team. Et le bateau, il est magique, il est juste magique.
Et les prochains attendus à bon port sont François Gabart et Gwenolé Gainé. En football, c'est ce soir la suite et la fin de la 16e journée de championnat. Au programme à 19h, Dijon-Montpellier, Metz-Rennes, Toulouse-Monaco, Amiens-Reims et Saint-Étienne-Nice. Et à 21h05, l'affiche phare de cette 16e journée, PSG-Nantes. Et pour les amateurs de football encore, sachez que c'est à partir d'aujourd'hui que sont mis en vente 1 million de billets pour l'Euro 2020 qui se jouera l'été prochain. La France, évidemment, qualifié. Nous en venons au Conseil Cinéma d'Eva Bétan. Bonjour madame.
Bonjour.
Aujourd'hui, It Must Be Heaven d'Elia Souleymane, un des rares cinéastes palestiniens connus. Mais vous me disiez, Eva, il ne se considère pas comme un porte-drapeau pour autant. Hein.
Non, alors Elia Souleymane, il faut que je vous le présente d'abord rapidement. C'est un drôle de zèbre, et j'ai envie de dire tant mieux. Il a un look à la Godard, il a un humour absurde qui va être teinté d'absurde, qui est teinté de poésie, pas du tout cynique. Hein. C'est un humour à la fois avec du désespoir et un humour cinglant. Il a un sens du décalage qui tient son caractère, mais qui a peut-être aussi été renforcé par l'errance. Elia Souleymane est un Palestinien errant. Par choix, dit-il, je n'ai pas été chassé de Nazareth. Sa famille fait partie de ces Palestiniens qui n'ont pas quitté leur ville, Nazareth, en 1948. Il est parti vivre à New York, puis à Paris, et il continue à retourner à Nazareth. Et son film est construit autour de ces 3 villes. Alors, la trame qui est très lâche, c'est lui. Il joue son propre rôle. Il joue le rôle d'un cinéaste palestinien qui essaie de faire des films et qui n'y arrive pas. Aujourd'hui, il est reconnu, il est primé dans les festivals, mais il pense à ses débuts.
D'ailleurs, le film a eu une mention spéciale à Cannes.
Exactement. Ouais. Quand on lui disait, mais attendez, un palestinien, ça peut pas être drôle. Vous n'êtes pas assez palestinien. Il y a une scène hilarante. Écoutez Elia Souleymane.
On a dit que j'étais un faux Palestinien, que je ne montrais pas la réalité de la Palestine. La gauche tenait là sa grande cause. Ils savaient ce qu'était la Palestine, et pas moi. Donc personne ne voulait produire mon film. Un film palestinien ne pouvait pas être drôle, comme si nous étions nés pour pleurer, pour être des victimes. C'est en fait un discours postcolonial. En vérité, c'est exactement l'inverse. Les Palestiniens aiment la vie, faire la fête, plaisanter. C'est une manière de résister à l'occupation, à l'oppression.
Ouais, et c'est profond en même temps.
Mais c'est très très profond. Et le film est construit en petites scènes, en sagnettes. Alors le fil conducteur, je vous l'ai dit, c'est lui. Il ne dit pas un mot pendant tout le film.
Bon.
Mais ce n'est pas un film muet parce que les autres parlent et lui, il les regarde. Mais quand il va dire une phrase, elle va éclater dans votre oreille. Il va juste dire à un chauffeur de taxi new-yorkais, je suis palestinien. Et vous l'avez entendu. Alors vous pouvez prendre ce film juste pour le plaisir et ce juste, ça lui irait très bien. Mais vous verrez après c'est un humour qui vous laisse un peu de tristesse, à la gorge un petit peu nouée. Et vous pouvez aussi, si vous voulez, c'est peut-être pas obligé, chercher des interprétations. Je vous donne un exemple. Une partie du film, la première, est à Nazareth, scène de la vie quotidienne, certaines vraiment drôles. Mais en même temps, il y a la végétation, il y a sa maison, et il dit en creux, nous sommes de cette terre. Vous pouvez aussi le lire comme ça. Il y a plein de registres, existentiels, politiques, légers, tout ce que vous voulez. Le fil conducteur, j'y reviens, on dit un film, c'est un regard. Ce n'est pas qu'un lieu commun. Et le regard là, c'est quelque chose d'absolument unique. C'est le regard de quelqu'un qui est dedans et dehors. C'est un regard de quelqu'un qui veut la position d'étranger. C'est un regard d'errant.
Et ça s'appelle It Must Be Heaven. Elia Souleyman, mélange de Godard et de Buster Keaton pour le portrait.
Alors lui dit que son humour, c'est tout simplement ses parents. Si les gens vont penser que c'est Buster Keaton, ça ne les dérange pas. Je vous précise que c'est un film inter.
Merci beaucoup Eva Bettan et à mercredi prochain. Là, ça n'est pas Eva Bettan qui va chanter, c'est encore mieux.
Heureusement.
Vous aurez peut-être reconnu la voix de Cécilia Bartoli, plaisir, star mondiale du chant lyrique, là dans le Barbier de Séville en l'occurrence, juste pour l'entendre, pour le plaisir et pour vous donner une petite information supplémentaire. La soprano va bientôt prendre la tête d'un opéra, l'opéra de Monte-Carlo. Ce sera en 2023 que les admirateurs se rassurent. Elle continuera parallèlement sa carrière de cantatrice. Et voilà, cinéma et opéra pour conclure ce journal et la météo bien sûr.
La météo avec les fermiers de Loué qui ne font rien. Rien que des œufs fermiers de poules en liberté. Loué, libre par nature.
Jean-Pierre Hameau.
Le soleil va briller généreusement sur une bonne moitié nord du pays cet après-midi, excepté entre Bretagne et Normandie, où les nuages bas présents ce matin auront bien du mal à se dissiper. La grisaille va résister vers le Val-de-Saône et le Mâconnais. En allant vers le sud, le soleil sera voilé par des nuages d'altitude, prévoyez encore des pluies soutenues du côté des Pyrénées-Orientales. Côté température, les maximales seront fraîches dans le nord, avec des valeurs comprises entre 2 et 7 degrés. Elles vont se radoucir dans le sud-ouest en évoluant entre 10 et 13 degrés, comptez 12 à 18 autour de la Grande Bleue. Demain matin, vous retrouverez une bonne tartine de grisaille et de brouillard sur une grande moitié nord du pays. Leur dissipation sera difficile l'après-midi. Vous aurez plus de soleil dans la moitié sud. Les températures en fin de nuit sont généralement froides, comptez moins 6 à 1 degré. On ira jusqu'à 10 près de la Méditerranée. Les maximales seront stationnaires et puis changement de temps vendredi avec l'arrivée d'une perturbation par le nord-ouest. Prévoyez une nette hausse des températures.